questions qui ont trait donc au thème des conférences de nos deux intervenants. Il y a une personne qui nous demande, je réponds à une question et je vous laisse la suite. Est-il permis de vendre des vêtements pour les dames qui sont non conformes à l'islam? Les mini-jupes, les décolletés, etc. Eh bien, il faut savoir que de vendre ce genre de vêtements-là, parce que dans notre tête à nous, dans notre société corrompue à nous, ce genre de vêtements ne se met que dehors. Et il y a une possibilité de mettre ce genre de vêtements à l'intérieur, pour notre mari par exemple, ou au-dessous du parda. Et le fait de vendre des vêtements où il y a au moins une utilisation licite halal possible, eh bien le fait de vendre ce vêtement-là, bien c'est halal. Le fait de vendre des vêtements, des mini-jupes, des décolletés, etc., malgré le fait que dans notre société corrompue et dans notre esprit corrompu, eh bien les mini-jupes, ça va se porter uniquement dehors dans la rue des bons enfants, malgré tout, le fait de vendre cela et le revenu sera halal. Parce que, eh bien, lorsque vous serez mariés, Inch'Allah, eh bien, vos épouses pourront porter ce genre de vêtements pour vous à la maison. Et si c'était haram, eh bien, où est-ce que vous verrez acheter cela pour vos épouses? Donc, au fait de vendre cela, ne vous inquiétez pas, c'est halal. D'accord? Deuxième question de la même feuille, puis je pose des questions plus tard. Est-il permis de vendre des objets de culte? La même personne pose la question. Est-il permis de vendre des objets de culte, statues, croix, bouddha, etc., utilisés par les autres religions? La réponse sera très courte. On n'a pas le droit de vendre ces objets qui servent uniquement au culte des autres religions. Là, je leur pose la question. William? Hein? Bon, là, quelquefois, certaines personnes nous disent de venir faire un petit boulot chez eux. Mais ils abusent et ne payent pas pour le travail effectué comme on doit être payé, comme on aurait dû être payé. Après cela, eh bien, on a dans notre cœur des choses contre ces gens-là, on commence à détester ces gens-là. Les gens nous appellent chez eux, on fait le travail et ils ne payent pas comme il faudrait qu'on nous paye. Eh bien, à ce moment-là, que faire?
C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que, justement, souvent, on prend des gens, par exemple, pour travailler, pour faire un petit boulot. On appelle ça, par exemple, ça c'est un employé qui vient dans la maison. Si on a un problème de fiotte, qui nous rappelle, donc à quelqu'un donc, qui va faire ce travail-là, ou bien l'électricité, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est de mise, c'est-à-dire c'est courant qu'en général, on donne le travail à faire cette personne-là, mais sans fixer le prix de ce travail. Alors, chacun de nous, ici présent, on doit savoir que c'est une condition dans l'islam, c'est une condition pour employer quelqu'un que de fixer le prix, le salaire qu'il percevra après son travail, avant qu'il commence à travailler. Pourquoi? Parce que ça, c'est souvent une discussion. Souvent, donc, on connaît la personne, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler. Par exemple, on a l'habitude de l'appeler pour faire, par exemple, je ne sais pas, pour installer un tube de néon, par exemple, ou bien quelque chose d'autre, bien pour faire réparer, par exemple, un tuyau qui était cassé. Et on dit, voilà, j'ai ça à faire à la maison, et la personne dit, même pas, ma passe demain. Passe demain. Maintenant que tu passes demain à la maison, il y a personne qui dit voilà, monsieur l'envoyeur, pour que ça, tu parles du travail. Après, donc il y avait un joint qui était cassé, il a mis le joint, et après il dit bon, ben il faut pas voir à lui. Ensuite, lorsqu'on lui demande le prix, ça a été 150 euros. D'accord? Et là, donc, il dit ah oui, mais il y a un problème. D'accord? Donc, ça, c'est source de dispute. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien clair pour chacun d'entre nous. Que lorsqu'on travaille chez quelqu'un, ou bien lorsqu'on prend quelqu'un pour travailler pour nous, il faut que ça soit bien clair au début, qu'on fixe bien le prix de ce travail-là, même si on connaît la personne. Parce que souvent, on connaît la personne, et lorsque le travail est terminé, on trouve que c'est trop cher, on ne peut pas le payer, mais on est obligé de le faire aussi. Alors, du côté de la personne qui emploie, elle aussi. De ce côté-là aussi, il y a un problème. Et l'autre, la personne aussi qui travaille, donc ça aussi, il faut que la personne ne le paye pas, comme c'est sont ici mentionnés dans cette question-là, et ensuite il y a des problèmes qui se créent dans ça. Donc pour éviter tout ça, hein, donc, on doit absolument, chacun d'entre nous doit bien retenir, que pour faire un travail, là, l'islam nous recommande la clarté, la transparence totale. Même si on se connaît, mais on doit fixer le prix, le salaire de ce travail-là avant de commencer le travail. Et ça, inchallah, ça va éviter ce genre de problème.
Comment expliquez-vous le fait qu'une ulama perçoive une rémunération en retour de ceux qui font la manata en février et de ceux qui font à la mosquée imam? Alors que le meilleur d'entre nous est celui qui apprend et qui enseigne le Coran, mais on n'a pas dit de prendre l'argent. Merci de m'aider.
Alors, donc par rapport à cette question-là, c'est une question qui est traitée dans beaucoup de kitabs de fatawa. Il faut savoir que, à l'époque du professeur Allah, alayhi wa sallam, et juste après, durant les époques glorieuses de l'histoire de l'islam, les tabri, etc., il y avait une caisse centrale qu'on appelait le Baytul Mal, maison publique. Et les gens qui travaillaient pour le digne d'Allah, qui donnaient leur temps, donc qui se consacraient à la propagation du digne, ils étaient payés par ce Bayt al-Mal. Ils étaient payés par le trésor public. Bon. Et même si, donc, en quelque sorte, c'était à cette époque-là, ils n'avaient pas un salaire perçu par, c'est-à-dire qui venait d'un particulier, une association ou quelque chose comme ça. C'était eux, ils donnaient leur temps pour le dire, et en quelque sorte, le gouvernement fixait lui-même un salaire pour ce qu'il fait. Et arrivé donc notre époque aujourd'hui, alors, les ulama nous disent que, à cette époque-là, il faut savoir que ce n'était pas un salaire qui percevait, c'était une, comment on peut dire ça, une sorte de compensation. Parce que ces gens-là, qui travaillaient pour la propagation de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, il y a eu quelques divergences concernant cette question. Mais si aujourd'hui, le ulama nous donne une autorisation de prendre un salaire lorsqu'on travaille pour le Dieu d'Amazon. Pourquoi? Parce que si, aujourd'hui, on va dire que non, ben, c'est pas prendre un salaire pour faire ma message, pour faire une mariage, alors chacun d'entre nous, on sait, il n'y aura plus personne pour faire ce travail-là, pour propager le digne d'Allah s.w.t. Et sachez également que lorsque nos ulama prennent un salaire pour l'enseignement, ce n'est pas, ils ne sont pas payés pour leur enseignement, mais pour le temps qu'ils passent dans la maison. Parce que lorsqu'on leur dit, par exemple, de venir le matin après Fajr jusqu'à 7h, ou bien 4h30 jusqu'à 7h, ou bien bref, le temps qu'on leur donne, alors on est en train d'utiliser le temps de ces personnes-là. C'est ce temps-là qu'on paye. Parce que s'il fallait payer l'enseignement, alors moi, frère, chacun d'entre nous doit savoir que le fait d'enseigner un halif là, un halif pas. Le halif, là même, on ne peut pas le payer son salaire, tellement il est malheureux. Tellement ce halif là, ce bras-là, il est précieux, ça même, il ne sait pas combien d'argent que personne n'est pas payé. C'est Allah seulement qui va payer. D'accord? Donc c'est seulement le temps qu'on utilise ces personnes-là pour les temps, hein, de les payer aussi.
Je me demande là-bas que je travaille dans la restauration et je suis amené à manipuler de la viande de porc et de la sole que je vais acheter.
Alors donc, ça aussi c'est une question qui revient assez souvent, c'est que quelquefois on est amené à faire un métier dans lequel on doit travailler et on doit manipuler des choses qui sont rares. Alors là aussi, dans le cadre hein, dans ce cadre-là, le musulman, il ne doit pas être une aide pour le haram. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, donc le musulman doit être une aide pour le bien, et non pas pour les choses qui sont basées, qui sont quoi, qui sont haram. Donc la personne qui travaille dans ce genre de situation-là, alors donc là, on va donner une réponse pour cette personne-là, que bien sûr aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir un travail. C'est très difficile de s'en sortir. Le travail, il y a beaucoup de travail, comme Anna nous a dit, il y a beaucoup de travail. Mais d'un autre côté aussi, quelquefois même avec dans la branche, on veut, quelquefois dans ses assurés, il n'y a pas de travail, etc. Mais ce qu'on va conseiller à cette personne-là, c'est de faire l'effort de trouver un travail pour se libérer justement des choses qui sont mauvaises. Et parce que lorsqu'il va utiliser le pont, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va couper la viande, soit il va faire cuire, et il sera une aide. Hein, donc il va entraîner quelque chose qui sera haram. Une personne va manger du haram à cause de lui. Donc ça aussi, hein, donc ça c'est très déconseillé, je pense. Donc hein, cette personne-là, elle doit faire le pont de trouver un autre travail.
Vous avez plusieurs questions par rapport au domaine d'études. Les gens demandent que bien quel domaine d'études ne devrait pas être fait par les musulmans. Ça veut dire que quelle sorte de métier, quelle sorte d'études le musulman n'a-t-il pas le droit de faire. Mais là, certains avaient le métier par rapport au métier, par rapport aux études. Il y a un musulman, par rapport à son islam, il ne devrait pas faire un métier qui est interdit. Dans, par exemple, là, vous avez vu des fois dans la justice pour notre article. Dans la finance classique, dans la restauration, comme il est en train de dire, on est obligé de manipuler les choses qui ne sont pas licites. Les choses qui ne sont pas licites, on n'a pas le droit de promouvoir ces choses-là, on n'a pas le droit de vendre ces choses-là, les choses qui sont en avant dans l'islam, on n'aura pas le droit de travailler dans ces choses-là. Maintenant, il existe des exceptions vraiment cas par cas, comme dans le monde. Mais en règle générale, c'est cela qui s'applique. Les choses qui sont illicites, qui sont haram, on n'aura pas le droit de promouvoir ces choses-là, de vendre ces choses-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, les choses strictement culturelles. On n'a pas le droit de vendre l'industrie pornographique, par exemple. On n'aura pas le droit de travailler dans cinématographique. La même chose, là, ils demandent est-ce qu'on a le droit d'être avocat. C'est une question que beaucoup de jeunes se posent, et on se l'est déposé une fois. Et bien, là, pourquoi il faut savoir par la règle générale, et qu'est-ce qui passe par notre livre de fond, qui est sur le chat de l'origine, que l'avocat, en règle générale, ce que nous on entend par l'avocat, parce que justement, encore une fois, on est dans une époque corrompue, eh bien, l'avocat est obligé de mentir. Eh bien, nos ulémas kiram nous disent que non, on peut être avocat si on a des codes justes, justifiés à défendre, et on n'est pas obligé dans l'absolu de mentir. Ce n'est pas une obligation. Vous savez, parfois, on a besoin d'avocats justement, et que ce n'est pas dans l'absolu un métier haram. Maintenant, dans chaque métier, bien si on ment, chaque métier, je pense que vous allez expliquer, dans chaque métier, si on ment, bien à ce moment-là, eh bien, ce n'est pas le métier en lui-même qui est en cause, mais c'est notre travail. Et que nous, notre amal, ce que nous sommes en train de faire, c'est ça qui n'est pas bon. Mais le métier en lui-même, il n'est pas à remettre en cause. Effectivement, en règle générale, bien là, il n'y a pas à regarder si la peur est juste, elle, je vous donne une cause, je vais défendre. Et que l'avocat musulman, l'avocat musulman, eh bien, si on donne une cause qui est juste, eh bien, à ce moment-là, il devra défendre cette cause-là. Mentir, c'est une interdiction en islam, mais être avocat, lorsqu'on peut être juste, ce n'est pas haram en soi. Là, il demande encore, on ne va pas rentrer dans les détails de la finance, est-ce que, si on veut travailler dans la finance, etc. Bien, la finance classique, comme on entend, hein, traditionnelle, mais effectivement, ça veut expliquer la dernière fois en détail, eh bien, on va, la finance classique qui inclut le riba, qui inclut l'intérêt, l'usure, etc. Tout cela sera interdit pour un musulman. Il y a plein de hadiths, plein de hadiths, pour un chalice qui l'interdit. Bien, ce moment-là, nous aussi, on ne va pas. Et c'est la même chose. Voilà, on va s'entraider dans les bonnes choses, mais on ne s'entraide surtout pas dans les mauvaises choses. On va surtout pas s'entraider pour les activités de l'île, bah oui,
activité d'intérêt, activité du jour, etc. Là, bien sûr, c'était la religion traditionnelle. Maintenant, si on va parler dans une finance charia compliant, si on parle dans le cadre d'une finance qui est justement islamique, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il y en a un qui demande que, est-ce qu'un musulman ou une musulmane a le droit d'aller dans une école, dans un collège, dans un lycée catholique? Bien dans l'absolu, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction d'y aller parce que ce n'est pas parce qu'il y a un lycée catholique qu'on ne doit pas y aller, qu'on ne doit pas le fréquenter. Le truc professionnel est haram. Et puis il donne la religion à Machallah. Car le sport est football satan. Le fait de jouer au football dans la suite, c'est la même chose. Il n'est pas interdit en soi de jouer au foot. Mais effectivement, de découvrir son satan jusqu'au genou, c'est obligatoire pour chaque homme de se couvrir jusqu'au genou. Lorsqu'on se découvre les genoux, c'est interdit. Si on est obligé de se découvrir les genoux pour jouer au foot, on ne pourra pas jouer. Si on veut couvrir son genou pour jouer au foot, eh bien on pourra jouer au foot. D'accord? Ce n'est pas le fait de jouer au foot qui est interdit. C'est si on est obligé de découvrir son satan, eh bien à ce moment-là on ne pourra pas jouer. Parce qu'on n'a pas le droit de découvrir son satan devant les gens. D'accord?
On suit des études dans le but d'acquérir des connaissances seulement. Ici la réflexion, c'est un peu par là. Alors, mon Ismaël, chose que vous avez beaucoup insisté dessus, c'est que lorsque je travaille, il y a mon niette de la croix. Quel que soit le savoir que je vais acquérir, je dois le mettre au service du fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si je deviens archéologue, par exemple, je deviens archéologue, il y a au travers de cette science, de ce savoir, il y a de comprendre les signes de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers des découvertes que je vais faire, etc. Vous nous demandez d'être des élites dans les classes. Moi, en tant qu'élite, je peux dire qu'il est difficile de l'être car nous sommes rejetés par les autres. Et quoi, en tout cas, une machine intellectuelle. Eh bien, on vous demande d'être des élites, effectivement, et il y a une chose dans la vie, il ne faut pas avoir complexe. Il faut être fier de ce que l'on est. Il faut être fier de la foi que nous avons nous. Il faut pas avoir honte de sa culture. Et pour cela, il faut s'épanouir. Et une manière de s'épanouir, c'est de travers les études. Et plus, il y a deux choses. Je l'avais demandé d'ailleurs à la CPE d'intervenir dans la semaine, elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais, qu'est-ce qui se passe si dans notre comportement, dans nos études, eh bien, nous sommes exemplaires, mais il n'y a pas de ici ensuite, Inch'Allah, les hommes n'auront aucune raison de nous rejeter. Comment faire comprendre le système éducatif de la salade de Jumaa justifie le retard du monde entier à Paris? Eh bien, soyez sûr que vos ulama vient essayer d'établir un contact avec le lectorat, avec différents responsables de chaque établissement, pour essayer de négocier justement les horaires pour que vous puissiez faire un largement. Ce que je vous conseille, c'est que dans chaque ville, vous avez des ulama référents, avec qui vous avez des contacts. Lorsque vous avez un souci, il y a de leur parler. Ils ont des contacts pour les étudiants en chaque établissement de leur ville. Inch'Allah, au travers de la discussion, du dialogue, ils pourront négocier pour que vous puissiez faire un travail du marché. Maintenant, il y a quelques questions sur la formation qui a été posée. Demandez à Inch'Allah de répondre à vos questions.
Mais je me rends compte que je n'ai pas d'objectif pour la suite. Je vais discuter notamment à une mission de cours que vous conseillez. Effectivement, ça serait une bonne alternative de faire une licence cours, éventuellement reprendre l'alternance. Si vous êtes déjà en deuxième année, donc essayez de vous orienter et de vous m'enseigner dès maintenant, avant la fin de vos biologies, et de m'enseigner dans quel centre de formation vous pouvez faire cette licence de compte. Je sais qu'il existe plusieurs centres de compte, et je sais aussi qu'il y aura dès l'année prochaine qui effectueront des nouvelles licences pro qui n'existent pas cette année. Donc il faut se renseigner dès maintenant, et si c'est en alternance, donc de chercher une entreprise le plus rapidement aussi et de lier des contacts avec les entreprises. Quel grand métier peut-on faire avec un bac informatique? Alors, c'est vrai qu'on peut faire pas mal de métiers qui touchent, dans tout ce qui est domaine informatique, ça peut être de la vente dans le domaine informatique, ça peut être programmateur, etc. Mais c'est vrai qu'un bac informatique, je pense que ça ne suffit pas aujourd'hui. Si vous voulez travailler en plus dans l'informatique qui demande pas mal de notions, de connaissances techniques, alors il faut vraiment, je pense, persévérer dans les études. Pour les gens qui n'ont ni diplôme ni travail, comment faire? Vers quelle formation il est le meilleur d'aller? Alors, je pense que pour ces personnes-là, c'est une question d'orientation, d'information, de se renseigner vers les conseillers d'orientation, vers les ANTE, vers tout ce qui est CRIJ et autres, et afin d'avoir des remises à niveau et de s'orienter vers des centres de formation qui vous donnent accès à des formations, donc en alternance, qui n'ont pas besoin de diplôme. Est-ce que si je commence par l'électronique et que l'on gagne au diplôme, il peut déboucher à un autre métier? Oui et non. En fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. Alors, ça, c'est une question un peu ambiguë. Mais là, c'est une question de réorientation, donc, point de vue du métier. C'est une question encore là de déboucher. Donc là, il faut bien se renseigner sur ce qu'on a envie de faire. Et donc, effectivement, on peut faire un autre métier. Donc là, c'est une question encore d'un autre type de formation, tout simplement. Selon vous, quel est le métier qui rapporte le plus? Comment faut-il faire pour y accéder? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui rapportent. Alors là, je vous laisse demander autour de vous, donc les professeurs, à vos familles, à vos parents. C'est vrai que les professions libérales reçoivent beaucoup d'argent. Maintenant, je pense, comme on avait dit tout à l'heure, c'est une question de lien. Comme Moulana a dit tout à l'heure, c'est une question de baraka, qu'Allah est mis dans le baraka, et il ne faut pas, je pense, regarder comment il faut faire pour gagner le plus. Quels domaines contiennent les métiers d'avenir? Comme on disait tout à l'heure, les métiers manuels, les métiers de service à la personne, les métiers donc de nouvelles, qui sont liés aux nouvelles technologies, je pense qu'ont des métiers d'avenir, et après, bon, il y a pas mal d'autres métiers aussi qui sont des métiers d'avenir, il faut se documenter éventuellement sur Internet éventuellement.
Une question, Inch'Allah, et un petit gosse. Ah, c'est l'insertion professionnelle des jeunes musulmans ne pourrait-elle pas passer par une discrimination positive des membres de notre communauté? Une telle cellule directive et professionnalisante ne serait-elle pas en adéquation avec la conjoncture actuelle? Vous avez compris? Il traduit. Il agit comme ça. Est-ce que ce serait pas bien? Que, eh bien, par rapport au système actuel, ça n'a pas de chômage, il y a une crise économique, mais quand même, j'ai un musulman, j'ai un travail, eh bien, le musulman, il a le premier travail, c'est pas direct des gens. Donc, déjà, c'est pas interdit à l'islam. Et ce que l'islam nous demande, eh bien, c'est d'aider notre frère musulman. Maintenant, il y a une chose, il faut mettre l'accent dessus. C'est que beaucoup de professionnels se plaignent que certaines fois, ils donnent la priorité à nos jeunes frères, et lorsque vient le moment de travailler, ils désertent, ils ne sont pas là. Richard qui est là peut vous témoigner que je cherche du boulot pour les jeunes musulmans. On met la priorité souvent, je parle de Saint-Denis parce que c'est la ville que je maîtrise, souvent, telle personne me dit, voilà, je cherchais telle personne, est-ce que tu connais un jeune? J'en parle à Richard et à d'autres personnes. On essaie de faire gagner le travail à un musulman. Et puis lorsque vient le moment de travailler, on dit ça, après le mois prochain, maintenant on se travaille. Là, la discrimination positive ne peut pas fonctionner comme ça. D'accord? Donc, la discrimination positive n'est pas interdite, mais c'est un outil de montrer un semblant de motivation et de montrer au travail.
pas seulement au travers de la discrimination positive, mais au travers de notre travail, de notre motivation que nous avons la volonté et bien de nous imposer dans notre travail.